Chapitre 12e. Quelques jours après les funérailles de Madame de Beauménil, M. de Maillefort, sortant du douloureux accablement où l'avait plongé la mort de la comtesse, et songeant à l'exécution des dernières volontés de cette malheureuse femme au sujet de l'orpheline, sentit toute la difficulté de la mission dont il s'était chargé. Comment, en effet, retrouver cette jeune fille que Madame de Beauménil lui avait si instamment recommandée? À qui s'adresser pour recueillir des renseignements ou des indications capables de le mettre sur la voie? Et comment surtout prendre des informations si délicates, sans compromettre la mémoire de Madame de Beauménil et le secret dont elle avait voulu entourer l'accomplissement de sa volonté suprême au sujet de cette orpheline inconnue, sa fille naturelle? Car M. de Maillefort ne pouvait plus en douter. En rassemblant ses souvenirs, le bossu se rappela que la comtesse, le jour de sa mort, lui avait envoyé une femme de chambre de confiance, afin de l'inviter à se rendre plus tôt à l'hôtel de Beauménil. « Cette femme est depuis très longtemps au service de Madame de Beauménil, » pensa le marquis. « Elle pourra peut-être m'apprendre quelque chose. » Le valet de chambre de M. de Maillefort, homme sûr et dévoué, fut chargé d'aller trouver Madame Dupont et l'amena chez le marquis. « Je sais, ma chère Dupont, » lui dit-il, « combien vous étiez attaché à votre maîtresse. »« Ah, monsieur le marquis, Madame la comtesse était si bonne, » répondit Madame Dupont en fondant en larmes. « Comment ne lui aurait-on pas été dévoué à la vie, à la mort ?»« C'est parce que je connais votre dévouement et le respect que vous avez pour la mémoire de cette excellente maîtresse. » Que je vous ai prié de venir chez moi, ma chère Madame Dupont. Il s'agit d'une chose fort délicate. Je vous écoute, monsieur le marquis. La preuve de confiance que m'a donnée Madame de Beauménil, en me mandant auprès d'elle le jour de sa mort, doit vous persuader à l'avance que les questions que je pourrais vous faire sont d'un intérêt presque sacré. Aussi je compte sur votre franchise et sur votre discrétion. Oh, vous pouvez y compter, monsieur le marquis. Je le sais. Maintenant, voici ce dont il s'agit. Madame de Beauménil avait été depuis longtemps, je crois, chargée par une personne de ses amis de prendre soin d'une jeune orpheline qui, par la mort de sa protectrice, se trouve à cette heure peut-être sans aucun appui. J'ignore le nom, la demeure de cette jeune fille et il me serait urgent de la retrouver. Ne pourriez-vous à ce sujet me donner quelques renseignements? Une jeune fille orpheline, reprit Madame Dupont en rassemblant ses souvenirs. « Oui. Pendant 10 ans que je suis resté au service de Madame la Comtesse, reprit la femme de chambre après un nouveau silence, je n'ai vu aucune jeune fille venir chez Madame, comme particulièrement protégée par elle. Vous en êtes bien sûr? Oh, bien sûr, monsieur le marquis. Et Madame de Beauménil ne vous a jamais chargé de quelque commission qui pouvait avoir rapport à la jeune fille dont je vous parle? « Jamais, monsieur le marquis. Souvent, on s'adressait à madame la comtesse pour des secours, car elle donnait beaucoup. Mais je n'ai pas remarqué qu'elle donnât de préférence ou s'intéressât davantage à une personne qu'à une autre. Et je crois que si madame avait eu quelques commissions de confiance, elle ne se serait pas adressée à d'autres qu'à moi. C'est ce que j'avais pensé, c'est pour cela que j'espérais me renseigner auprès de vous. Voyons, cherchez. Vous ne vous souvenez de rien qui puisse vous rappeler une jeune fille que Madame de Beauménil protégeait particulièrement et depuis longtemps. « Je ne me rappelle rien de cela, » reprit Madame Dupont après de nouvelles réflexions. « Rien, absolument. » Le souvenir d'Herminie lui était, il est vrai, un instant venu à l'esprit, mais la femme de chambre ne s'arrêta pas à cette pensée. En effet, rien dans la conduite apparente de la comtesse envers Herminie, qu'elle avait reçue pour la première fois quelques jours avant sa mort, ne pouvait mettre Madame Dupont sur la voie de cette protection spéciale et depuis longtemps accordée à la jeune fille dont parlait le marquis. « Allons, » dit celui-ci avec un soupir, « il faudra tâcher de me renseigner autrement. » « Pourtant, attendez donc, monsieur le marquis, » reprit Madame Dupont. « Cela ne paraît avoir aucun rapport avec la jeune fille dont vous parlez, mais enfin, autant vous le dire. » « Voyons, qu'est-ce ? » « La veille de sa mort, madame la comtesse m'a fait venir et m'a dit « Vous allez prendre un fiacre et vous irez porter cette lettre chez une femme qui demeure au Batignolles, sans lui dire de quelle part vous venez. Vous la ramènerez avec vous et vous l'introduirez chez moi dès son arrivée. » « Et le nom de cette femme ?»« Oh, un nom singulier, monsieur le marquis. Je ne l'ai pas oublié. Elle se nomme Madame Barbançon. Et vous l'avez vue souvent chez Madame de Beauménil ?
Seulement cette fois-là, monsieur le marquis.
Et cette femme, vous l'avez amenée chez Madame de Beauménil ?
Non, pas moi, monsieur le marquis. Comment cela ?
Après m'avoir donné le premier ordre dont j'ai parlé à monsieur le marquis, Madame s'est ravisée et m'a dit, je me le rappelle bien, « Tout bien considéré, Madame Dupont, vous n'irez pas chercher cette femme en fiacre. Cela aurait l'air d'un mystère. Faites atteler ma voiture, donnez la lettre à un valet de pied et qu'il la porte à cette personne en lui disant qu'il vient la chercher de la part de Madame de Beauménil. »
Ilona a été ainsi chercher cette femme.
« Oui, monsieur le marquis. »
Et Madame de Beauménil s'est entretenue avec elle.
« Pendant de grandes heures, monsieur le marquis. »
« Et quel âge a-t-elle ? »
« Au moins 50 ans, monsieur le marquis. »
« Et c'est une femme du commun. »
« Et ensuite de son entretien avec la comtesse ?»«
La voiture de madame l'a reconduite chez elle, au Batignolles. »
« Et depuis, vous n'avez pas revu cette femme à l'hôtel Beauménil ?»«
Non, monsieur le marquis. »
Après être resté quelque temps pensif, le bossu, s'adressant à madame Dupont, « La femme dont vous me parlez se nommait, dites-vous, madame Barbançon. » Le bossu écrivit ce nom sur un portefeuille et reprit, « Elle demeure, au Batignolles. »
Quelle rue, quel numéro ?
Je n'en sais rien, monsieur le marquis. Je me rappelle seulement que le valet de pied nous a dit que la maison où elle logeait était une rue très déserte et qu'il y avait un jardin que l'on voyait en dehors à travers une petite grille en bois.
Le bossu, après avoir écrit ses renseignements sur son carnet, dit à madame Dupont « Je vous remercie de ces indications, les seules que vous puissiez me donner. Malheureusement, peut-être, elles seront inutiles pour les recherches dont je m'occupe. Si plus tard, cependant, vous vous rappeliez quelque fait nouveau qui vous parut propre à m'éclairer, je vous prie de m'en instruire.
Je n'y manquerai pas, monsieur le marquis. »
Monsieur de Maillefort, ayant généreusement récompensé madame Dupont, monta en fiacre et se fit conduire au Batignolles. Après 2 heures de recherche et d'investigation, le bossu découvrit enfin la maison du commandant Bernard, où il ne trouva que madame Barbançon. Olivier était parti depuis plusieurs jours avec son maître maçon, et le vétéran venait de sortir pour aller faire sa promenade habituelle dans la plaine de Monceau. La ménagère ayant ouvert au bossu, fut désagréablement frappée de la laideur narquoise et de la difformité du marquis. Aussi, loin de l'introduire dans l'appartement, elle resta sur le seuil de la porte, barrant pour ainsi dire le passage à M. de Maillefort. Celui-ci, s'apercevant de l'impression peu favorable qu'il causait à la ménagère, la salua très poliment et lui dit « C'est à madame Barbançon que j'ai l'honneur de parler. »«
Oui, monsieur, qu'est-ce que vous lui voulez à madame Barbançon ?»«
Je désire, madame, répondit le bossu, que vous veuillez m'accorder quelques instants. »«
Et pourquoi donc faire, monsieur ?»
demanda la ménagère en toisant le bossu d'un regard défiant.
« J'aurai, madame, à vous entretenir de choses fort importantes. »«
Moi, je ne vous connais pas. »«
Et moi, madame, j'ai l'avantage de vous connaître. »
De nom seulement, il est vrai.
La belle histoire. Moi aussi je connais le nom du grand Turc.
Permettez-moi, ma chère madame Barbançon, de vous faire observer que chez vous nous causerions infiniment plus à notre aise que sur ce palier.
Monsieur,
riposta aigrement à la ménagère,
je n'aime à être à mon aise qu'avec les personnes qui m'en donnent envie.
Je comprends parfaitement votre défiance, ma chère madame, reprit le marquis en dissimulant son impatience.
Aussi, je me recommanderai d'un nom qui ne vous est pas inconnu.
Quel nom ?
Celui de madame la comtesse de Beauménil.
Vous venez de sa part,
monsieur ?
Dit vivement la ménagère.
De sa part, non, madame, répondit tristement le bossu en secouant la tête. Madame de Beauménil est morte.
Ah, mon Dieu, morte ! Et depuis quand ?
Pauvre chère femme.
Je vous en prie, madame, entrons chez vous, et je vous répondrai. Reprit le marquis avec une sorte d'autorité qui imposa à madame Barbançon, très curieuse d'ailleurs de tout ce qui se rapportait à madame de Beauménil. La ménagère introduisit donc le bossu dans le modeste appartement du commandant Bernard.
« Monsieur, reprit la ménagère, vous disiez donc que madame la comtesse de Beauménil était morte ?
Il y a plusieurs jours, madame, et justement le lendemain de l'entretien qu'elle a eu avec vous.
Comment, monsieur, vous savez ?
Je sais que madame de Beauménil s'est longtemps entretenue avec vous, et je viens accomplir une de ses dernières volontés en vous remettant de sa part ses 25 napoléons. »
Et le bossu fit voir à madame Barbançon une petite bourse de soie verte, dont l'émail laissait briller l'or qu'elle renfermait.
Ces mots, 25 Napoléon, sonnaient horriblement mal aux oreilles de la ménagère. Le marquis eût dit 25 louis que l'impression de l'ennemi juré de la mémoire de l'or de Corse eût sans doute été différente. Ainsi, loin de prendre l'or que le bossu lui offrait pour la tenter et la mettre en confiance, Madame Barbançon, sentant renaître ses préventions, répondit majestueusement en repoussant d'un geste de dédain superbe la bourse qu'on lui offrait. « Je ne reçois pas comme ça des Napoléons. » Et elle accentua très amèrement ce nom détesté. « Non, je ne reçois pas comme ça des Napoléons du premier venu, sans savoir, entendez-vous, monsieur ?»«
Sans savoir quoi, ma chère madame ?»«
Sans savoir quels sont les gens qui disent des Napoléons, comme si de dire des louis leur écorcherait la bouche. Mais c'est connu, » ajouta-t-elle d'un ton sardonique. « Dis-moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es. Suffit, vous êtes jugé. »«
Je suis jugé. »«
Jugé et toisé. Maintenant, qu'est-ce que vous me voulez? J'ai mon pot-au-feu à inspecter. » »«
Je vous l'ai dit, madame. Je venais vous apporter une preuve de la gratitude de madame de Beauménil pour la discrétion, pour la réserve que vous avez montrée lors de l'affaire en question. »«
Quelle affaire? Vous le savez bien.
Pas du tout. » »«
Allons, ma chère madame Barbançon. »
« Mettez-vous en confiance avec moi. J'étais l'un des meilleurs amis de madame de Beauménil, et je n'ignore pas que l'orpheline... »«
Vous savez, l'orpheline. »«
L'orpheline. »«
Oui, une jeune fille.
Je n'ai pas besoin de vous en dire davantage. Vous voyez bien que je suis instruit de tout. »«
Alors, qu'est-ce que vous me demandez, puisque vous savez tout ?»«
Je viens, dans l'intérêt de la jeune fille, que vous connaissez. Vous priez de me donner son adresse. J'ai à lui faire une communication très importante. »
« Vraiment ?
Sans doute.
Voyez-vous ça ? » dit la ménagère d'un ton sardonique et pénétrant.
« Mais, ma chère madame Barbançon, qu'y a-t-il donc de si extraordinaire dans ce que je vous dis ?»«
Il y a, » s'écria la ménagère en éclatant, «
il y a que vous êtes un vieux roué.
Moi ?
Un malfaiteur qui voulait me corrompre à force d'or pour me faire jaser.
Ma chère madame, je vous assure,
mais votre bosse en serait pleine de Napoléon, voyez-vous ? Elle sonnerait l'or,
et vous m'autoriseriez à y fouiller et à y faire fouiller,
que je ne vous dirai pas un mot de ce que je ne veux pas dire.
Ah, voilà comme je suis bâti, moi. C'est un peu plus droit que vous, ça, hein, et ça vous vexe.
Madame Barbançon, écoutez-moi de grâce. Vous êtes une digne et honnête femme,
et je m'en vante.
Et vous avez raison. Aussi, en votre qualité d'excellente femme, vous m'écouterez et vous me répondrez, car ni l'un ni l'autre.
« Ah, vous vous êtes dit, vieux brombé, je m'en vais mettre les fers au feu pour tirer les vers du nez de madame Barbançon, afin de voir ce qu'elle a dans le ventre. Mais, minute, votre indécence est dévoilée, aussi je vous prie de me laisser tranquille. »«
Un mot, de grâce, un seul mot, ma chère amie, » dit le marquis d'une voix affectueuse, en voulant prendre la main de la ménagère. Mais celle-ci, se rejetant vivement en arrière, s'écrie avec un effroi pudique et courroucé,
« Des attouchements, jour de Dieu ! Maintenant je comprends tout. » L'office de votre bourse. Ne m'approchez pas, affreux libertin, je vous ai vu venir, serpent. D'abord, vous m'avez dit madame, et puis, ma chère madame, maintenant, c'est ma chère amie. Pour finir, par mon trésor, n'est-ce pas?
Madame Barbançon, je vous jure que...
On me l'avait bien dit. Ces gens noués, c'est pire que des singes, s'écria la ménagère en se reculant encore.
Monsieur, si vous ne vous en allez pas, j'appelle les voisins, je crie à la garde, au feu.
« Eh, morbleu, vous êtes folle !»
s'écria le marquis, désolé de l'inutilité de ses tentatives auprès de madame Barbançon, qu'il pouvait supposer instruite d'une partie du secret de madame de Beauménil.
« À qui diable en avez-vous avec vos effarouchements?
Vous êtes au moins aussi laide que moi, et nous ne sommes pas faits pour nous tenter l'un ou l'autre. Je vous le répète pour la dernière fois et pesez bien mes paroles. » Je viens ici pour tâcher d'être utile à une pauvre et intéressante jeune fille que vous devez connaître. Et si vous la connaissez, vous lui faites un tort irréparable, entendez-vous?
En ne me disant pas où elle est, ou en ne m'aidant pas à la retrouver,
réfléchissez bien.
Le sort, l'avenir de cette jeune fille sont entre vos mains. Et vous avez trop bon cœur, j'en suis sûr, pour vouloir nuire à une digne créature qui ne vous a jamais fait de mal.
Monsieur de Maillefort parlait avec tant d'émotion. Son accent était à la fois si ferme, si pénétrant, que madame Barbançon revint d'une partie de ses préventions contre le marquis.
« Allons, monsieur, lui dit-elle, mettons que je me suis trompée en pensant que vous vouliez m'en compter.
C'est bien heureux.
Mais quant à vous dire un mot de ce que je ne dois pas dire, monsieur, vous aurez beau faire, vous n'y parviendrez pas. Vous êtes un brave homme. Et vous n'avez que de bonnes intentions, c'est possible. Mais moi, je suis aussi une brave femme. Je sais ce que j'ai à faire, et surtout à ne pas dire. Aussi, vous me couperiez en quatre, que vous ne m'arracheriez pas un traître mot. Je ne sors pas de là. Voilà mon caractère. Où diable la discrétion va-t-elle se nicher ? Dit M. de Maillefort, en quittant Mme Barbançon, désespérant avec raison de rien obtenir de la digne ménagère, et voyant avec douleur la vanité de ses premières recherches au sujet de la fille naturelle de Mme de Beauménil.